With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La nourriture, c'est son moyen de nous embêter. C'est comme si elle était méfiante sur tout ce qu'on lui propose. Par principe, elle repoussait l'assiette.
Ce qui est important en tant que parent, c'est d'être là pendant le moment du repas. Mmh. Sans écran, sans téléphone.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Mathilde, je vous en prie, installez-vous.
Alors Fanny, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, je viens vous voir au sujet de mes filles qui ont 9 et 11 ans. La question qu'on se posait hier soir, c'est comment on fait pour adapter leur alimentation, sachant qu'elles commencent à entrer dans une période de prépuberté. Les hormones ne sont pas toujours nos copines. Mmh. Et que, entre amis, à l'école, ils échangent sur « tu pèses combien ?»« J'ai des grosses cuisses. » Alors qu'elles sont, quand on regarde la courbe, elles sont dedans, elles sont très bien. Mais je me pose quelques questions sur ça.
Cette question de l'alimentation, elle date juste de hier soir ou
c'est un petit
ou depuis
sujet.
Plus longtemps?
C'est un sujet qui arrive tout doucement. Sur leur apparence physique, et je pense que c'est lié aussi aux préoccupations qu'elles peuvent avoir avec l'âge qui arrive.
Alors là, vous parlez de leurs préoccupations à elles,
oui,
par rapport à cette,
oui,
question-là. Est-ce que pour vous, ça a été une question de quelle alimentation pour vos enfants dès leur naissance ?
Alors, oui. Enfin, moi, j'ai toujours été attentive à ce qu'elles aient un rapport à l'alimentation qui soit normal. Donc, j'étais très, très disciplinée sur les étapes de à quel moment on introduit, à quel moment on agrandit les doses. Pour moi, c'est important, en fait, qu'elles aient une bonne alimentation. J'aurais toujours tout fait maison depuis la naissance. Même aujourd'hui, leur pique-nique, je fais le pain. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie, donc c'est que ça a toujours été central, quoi, pour moi.
C'est pas commun, en tout cas, vous faites tout. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
En fait, quand elles étaient petites, surtout quand l'aînée est repartie chez la nounou, je pense que ça a été une façon de soigner ma culpabilité de ne pas être avec elle, tout bêtement. C'était une façon d'être avec elle. Donc là encore, à l'école, elles ont leur goûter, c'est leur maman qui l'a fait, elles sont super fières. En plus, on commence à le faire ensemble depuis un an ou deux, et ce qui est très sympa. Et c'est une manière d'être avec elle sans être avec elle.
Donc il y a eu, à travers l'alimentation, vraiment une volonté d'être en lien, malgré l'absence physique. Donc ça joue un rôle dans votre relation.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu, au-delà de cette question du lien, d'autres choses qui ont motivé vos choix de tout faire maison ?
Alors, le fait de faire maison, c'était aussi pour leur donner le vrai goût des aliments, pour éduquer leur palais, parce que je trouve que c'est culturel aussi, le goût dans la culture française. Donc ça faisait partie des choses qu'on voulait transmettre avec mon mari. Et puis, quand on a eu notre deuxième, ce qui était sympa, c'est qu'avec l'aînée, on allait au marché et elle nous voyait faire les petits pots. Et du coup, c'est tout bête, mais au moins, elle sait ce que c'est qu'une carotte, une courgette, du chou. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient en purée ou dans un petit pot. Donc, ça faisait partie des éléments qu'on transmet à nos enfants.
Mmh. Oui, d'une forme d'éducation
c'est
aussi.
Ça. Mmh. Oui.
Est-ce qu'il y a eu, alors vous avez eu votre première fille, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des questions particulières alors, autour du choix peut-être du biberon, de l'allaitement, au moment de la diversification, comment les choses se sont passées?
Pour moi, c'était naturel d'allaiter. Je pense que j'avais été élevée par une maman qui avait été tellement ravie d'allaiter sa deuxième, puisqu'elle n'avait pas fait pour le premier, que j'étais... conditionnée, et puis aussi parce que c'est aussi un choix de leur offrir ce qui me semble être le meilleur, quoi. Donc je me dis, notre corps, il est là, il est fabriqué pour fabriquer du lait, autant s'en servir. Ça a un côté aussi assez pratique. L'expérience que j'en ai eue, c'est qu'à la fois c'est la chose la plus naturelle du monde et en même temps pas si simple. Pour l'aînée, on était que toutes les deux, donc ça allait. Ça se passait bien. Pour la deuxième, ça a été plus difficile puisque l'aînée avait 2 ans et demi de plus et que j'étais avec les deux à la maison. Et donc, elle avait le chic pour tomber au moment où j'allaitais. Et ce qui a généré, je pense, chez la deuxième, un comportement, je ne sais pas si c'est d'opposition, mais vis-à-vis de la nourriture, c'est son moyen de nous embêter. Je le dis comme ça, mais... Et c'est quelque chose qui reste, en fait.
Mm-hmm. C'est-à-dire, quelles sont les différences dans le rapport ou leur manière de manger à chacune?
Anna, ma première, elle mangeait tout. Elle goûtait tout avec curiosité et envie. La deuxième, c'est comme si elle était méfiante sur tout ce qu'on lui propose. Et encore aujourd'hui, si j'amène une nouvelle recette, elle va me dire « qu'est-ce que tu as mis dedans ?» Donc, maintenant, comme je l'associe à la préparation, elle sait ce qu'il y a dedans et ça passe mieux. Mais pendant longtemps, elle s'opposait. C'était par principe. Elle repoussait l'assiette. Et ça a commencé dès l'allaitement où je l'allaitais, elle se mettait à tirer sur le sein, à se fâcher, à s'arrêter en plein milieu. Enfin, voilà, ça a été...
Comment vous gérez ces moments d'opposition?
Alors, au départ, on se fâche. Finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. Comme notre aînée était à l'école, on a un peu piqué le concept de la charte de vie de l'école. Mmh. Et on s'était dit, comme on s'énervait vite, on empile les punitions, parce qu'on se fâche. Donc on a mis en place un petit tableau visuel avec les jours de la semaine. Et quand elle mangeait bien, c'était un cœur. Quand elle mangeait pas bien, c'était une petite croix. Et on disait, écoute, à la fin de la semaine, on en reparle. Et on voit, si tu as plus de croix que de cœur, on décidera de la punition qui est adaptée au nombre de croix et de cœur. Ce qui fait que, comme c'était affiché et qu'elle a un petit côté un peu orgueilleux, elle voyait le nombre de croix et en fait, d'elle-même, elle est repassée au cœur. Enfin, elle voulait des cœurs, quoi. Des étoiles. Vraiment. Et elle s'est corrigée elle-même. Donc la première semaine, on a dû discuter, je ne sais plus quelle punition on a mis en place, mais on a dû discuter d'une punition et dire, écoute, t'as pas, tu vois, il y a plus de cœur que de croix, donc c'est juste. T'es d'accord avec ça? On l'a vu toute la semaine et elle a accepté. Et la semaine d'après, les deux premiers jours, c'était la bagarre. Et puis hop, au bout du troisième jour, elle s'est réglée elle-même. Mmh. Et en fait, ça a permis de déporter le moment où on se disputait avec elle, où on se fâchait. Et on est tous redescendus aussi en pression. Et finalement... Après, elle a gardé son petit jeu de « non, je ne veux pas ». Et en fait, on a finalement commencé à dire « ok, c'est Rose, t'as décidé que tu ne voulais pas, c'est ton petit principe, ça a passé ». Et on a fait une espèce de petite blague. Et ça va mieux.
Donc,
ça a pris du temps. Hein.
Au fur et à mesure, vous êtes... En tout cas, vous dites bien que là, il y avait un enjeu relationnel et affectif autour de ces refus et du coup de l'alimentation. Et qu'au moment peut-être où vous avez lâché, vous avez accepté, elle refuse, c'est pas grave. Finalement, que ça ait plus d'impact peut-être pour vous, que ça a modifié aussi les choses.
Je pense qu'on n'a pas complètement lâché parce qu'elle mangeait quand même. Au final, elle prenait son repas parce qu'on cuisine un repas et tu manges ça ou tu ne manges pas. Donc, il y a eu des moments où elle loupait les repas. C'est un peu dur pour le cœur de maman de se dire « on n'a pas mangé ». bon, bah, elle mangeait mieux au petit déjeuner ou au repas suivant. Enfin, ça... Mmh. Et au final, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. S'il a vraiment besoin de manger, il va manger. Mmh.
Mais au début, ça pouvait être source d'inquiétude.
C'était dur.
Mmh. Qu'elle saute un repas.
Bah, je me disais, il va lui en manquer. Enfin bref, toutes les milliards de questions qu'on se pose quand nos enfants sont petits. En plus, il n'y avait pas forcément un recul énorme, vu que l'aînée, elle avait que 2 ans et demi de plus. Je ne pouvais même pas me dire, bon, bah, c'est pas grave, elle n'aura pas de carence. Et bon, quand on l'a pesée, elle était toujours bien, donc il n'y a pas eu ça. Puis finalement, elle s'est mise à manger. Et je pense que comme aussi on n'en a plus fait un sujet, elle est allée sur un autre sujet, bien sûr, mais... Bah oui, sinon ce serait pas drôle.
Est-ce que, voilà, au-delà de ces mouvements d'opposition, est-ce qu'il y a pu y avoir pour l'une ou l'autre d'autres difficultés autour de l'alimentation ?
Pas petite. En revanche, l'aînée, en grandissant, elle a énormément de difficultés avec la viande. Donc, elle a du mal à manger la viande. C'est venu, et pourtant, elle avait découvert tous les aliments super bien. C'est venu à partir du, je dirais, grande section CP. Et du coup, ça fait partie des questions que j'ai, c'est par quoi on peut remplacer ça ? C'est pour qu'elle ait un apport de protéines, en fait.
Comment vous avez accueilli le fait qu'elle ne veuille plus, qu'elle n'aime pas la viande, que le refus de cet aliment-là ?
Alors, connaissant l'aînée, c'est pas une question d'opposition pour elle. Je pense que c'est plus une réflexion qu'elle mène, donc on en discute. Et puis aussi, je lui dis, bah, on a besoin, j'axe sur le côté, tu as besoin d'apport de protéines, donc il faut quand même que tu en manges un petit peu. Et le côté aussi, bah, essaye quand même de découvrir, de t'ouvrir à ça aussi, mais je la force pas. Je lui en mets un peu moins, sa sœur, elle adore la viande, c'est parce que c'est l'inverse, sinon c'est pas drôle. Donc, je peux faire une assiette à deux, hein. Ça marche très bien. Mais je lui réduis sa dose. Je respecte son choix parce que je pense qu'elle est elle a 11 ans et elle se forme aussi ses convictions. Et je trouve que c'est important aussi de les laisser cheminer.
Est-ce qu'il y a eu d'autres périodes où il y a eu d'autres refus par rapport à d'autres aliments ?
Pour la grande, non. La deuxième, mais là, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est génétique, mais c'est comme son père. Mais tout ce qui est fromage, c'est refus catégorique. Sinon, ça se passe plutôt bien. Elles sont assez ouvertes, de plus en plus ouvertes, et elles nous ont surpris. L'année dernière, on est partis au Japon, tous les quatre, c'était notre premier grand voyage. Et on leur a dit, surtout pour la deuxième, il y a eu une petite préparation mentale sur ce voyage, en disant, bah, tu sais, on ne va pas savoir tout ce qu'on mange, hein. On aura une photo, et puis voilà. Donc il faudra que tu goûtes. Et là, on a été scotchés. Parce qu'elles ont tout goûté, elles ont tout expérimenté, elles ont fini... Enfin, voilà, elles étaient à fond. C'était drôle de les voir. On était contents parce qu'on voulait qu'elles s'ouvrent au pays. Et je pense qu'on comprend aussi, on découvre un pays par son alimentation. C'est ce qui est le plus accessible, en fait, au démarrage sur la culture d'un pays. Et du coup, on avait envie qu'elles aient cette curiosité. Et elles l'ont. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça va, on s'en sort bien pour l'instant.
Dans tout ce que vous dites, Fanny, j'entends que pour vous, l'alimentation, c'est aussi en lien avec la question de la santé. Est-ce que voilà, ça, c'est une préoccupation importante pour vous ?
Oui. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de choses. Dans ma famille, il y a des personnes qui sont dans l'agriculture bio. Enfin, voilà, ça fait partie de notre façon de vivre. Et donc, du coup, ouais, manger équilibré, manger sainement des produits dont on sait d'où ils viennent, ça compte. C'est pour ça que je leur fais leurs petits gâteaux, même si c'est du temps passé. Mais au moins, je sais que ce qu'elles ont dans l'assiette, il n'y a pas tout un tas d'additifs, en fait.
Comment vous trouvez le temps de faire tout ça ?
Ah ! Ben, en fait, je privilégie ça, tout simplement. Je pense qu'en fait, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, donc ça m'a semblé assez naturel. Et puis maintenant, elles font avec moi.
Vous disiez, Fanny, qu'en grandissant, du coup, elles-mêmes s'intéressent à la question de leur alimentation en lien avec leur poids, leur apparence physique. Comment elles expriment ça ?
En fait, à l'école, ça fait partie du programme. Donc, ils parlent du petit déjeuner, ce qui fait que elles sont venues me questionner. Bah, alors, du coup, nous, notre petit déj, enfin bref, il y a eu plein de questions autour de ça qui sont venues spontanément liées au cours, en fait. Donc, jusque-là, c'était des discussions vraiment... factuel, enfin, depuis quelques mois, parce que la grande, on commence à se former. Et du coup, il y a tout un tas de questions qui arrivent. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'âge, mais ils parlent tous de tu pèses combien ? Et je dis, mais le poids, c'est un rapport avec ta taille, ton ossature. Enfin, on n'est pas tous pareils. Et en fait, je vois que c'est une préoccupation qui devient de plus en plus présente. Peut-être qu'après, moi, j'ai un petit peu induit ça aussi, mais pendant le confinement, en fait, au départ, on a gardé les mêmes proportions que quand ils allaient à l'école. Mais sauf qu'en fait, là, ils ne couraient pas autant. On a commencé à voir les pantalons un petit peu se serrer. Et donc, avec mon mari, on a dit, bon, bah, écoutez, les filles, moins de ces soies, on garde la même dose et on fait du sport. Soit on réduit un peu les doses et puis voilà. Et en fait, je sais pas, elles ont commencé aussi du coup à se regarder un peu plus. Alors est-ce qu'elles ont eu plus le temps, etc. Et même moi, je suis vigilante de leur dire, mais non, mais tu te pèses pas tout le temps. Enfin, je veux dire, on se pèse quand on a besoin de savoir ta dose poids pour le Doliprane. Et encore maintenant, on n'a plus besoin. Elles sont mises à se regarder un peu plus. Et je trouve, enfin hier soir particulièrement, c'est assez curieux, mais je sentais que c'était... ça commence à angoisser, quoi. Ah, mais moi, je fais 32 kilos et mes copines, elles font 28. Je dis, tu fais peut-être 5 cm de plus, c'est pas grave. Enfin, j'essaye de rationaliser, mais je sens que c'est quelque chose qui est là. Et elle me disait, mais du coup, pourtant, on ne mange pas trop de bonbons, elles ne comprennent pas. Ça va devenir un sujet. Et comme c'est un sujet pour moi, c'est là aussi où j'essaye de faire attention à ne pas...
Comment c'est un sujet pour vous ?
J'ai eu une maman qui m'a mis au régime à l'âge de 9 ans, donc la méthode fromage blanc sur les tartines, bon, à 9 ans, ça fait un peu... C'est pas top, quoi. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir avoir, moi, un rapport normal à l'alimentation. Il m'a fallu faire un grand travail. Et ma pire crainte, c'était qu'elles aient aussi ce rapport-là. Donc je me dis, elles l'ont pas, donc c'est bien, mais j'aimerais bien qu'elles se disent, c'est cool, quoi. Enfin, je me prends pas la tête avec la nourriture.
D'où votre vigilance aussi sur la manière dont vous avez construit, la manière dont vous cuisinez. Voilà, c'était aussi une manière de ne pas reproduire. Voilà,
c'est ça, de garder de la gourmandise tout en ayant quelque chose d'équilibré.
Ok, merci beaucoup Fanny. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne Sophie Maisonnier, notre experte. Bonjour Sophie, vous êtes naturopathe spécialisée en nutrition, vous exercez en libéral à Paris, vous accompagnez des adultes, des familles et des enfants qui souhaitent changer leur alimentation ou leur état de santé. Je reçois régulièrement à mon cabinet des parents qui rencontrent des difficultés sur cette question de l'alimentation, qui parfois devient un véritable enjeu affectif, relationnel, que l'alimentation est chargée de plein de choses et peut amener parfois des conflits entre les parents et les enfants. Tout d'abord, Sophie, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine, variée et en quoi c'est important pour les enfants ?
Une alimentation saine pour les enfants, c'est important à plusieurs points de vue. D'abord au point de vue physiologique, physique, mais aussi au point de vue du rapport à l'alimentation. En fait, c'était très intéressant le témoignage de Fanny parce que vous avez tout dit, vous avez parlé de plein de sujets passionnants. On voit vraiment à quel point il y a vraiment les deux pans qui se répondent et dont on a besoin de se préoccuper presque autant l'un que l'autre, en fait, sur ce qu'on met dans l'assiette et ce qui se passe autour de l'assiette. Oui, en effet, Mathilde, vous avez prononcé le mot alimentation variée, il me semble. Mm-hmm. Alors, une alimentation variée fait partie des aspects d'une alimentation saine. Donc, une alimentation saine, on pourrait la résumer à un certain nombre d'éléments de dénominateurs communs. C'est une alimentation variée, en effet, qui permettra, par une variété importante d'aliments, de couvrir les besoins nutritionnels des enfants. Il faut quand même savoir que la période de 0 à 3 ans est la période la plus importante de la croissance de la vie d'un individu. En 3 ans, le cerveau d'un bébé passe de 300 grammes à 1 kilo. On multiplie notre poids par 4, on multiplie notre taille par 2. Pour que tout cela puisse avoir lieu, on a besoin de tous ces aliments qui vont nous apporter ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides d'un côté, et aussi les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments, qui vont permettre dans l'ensemble d'apporter ce qu'il faut pour le développement physiologique, métabolique, tissulaire, psychomoteur de l'enfant. Donc pour parvenir à tout ça, il faut en effet varier pour pouvoir bénéficier de toutes les vitamines et les nutriments qui sont répartis dans plein d'aliments différents. Il faut faire attention à la qualité des produits, faire attention à la qualité de la viande. C'est d'autant plus important, par exemple, de choisir des fruits et des légumes, surtout les fruits mûrs, parce qu'en fait, la grande majorité des vitamines arrivent dans les fruits dans les 24 heures qui précèdent la maturité du fruit. Un fruit qui n'est pas mûr du tout, déjà, il aura beaucoup moins de goût, mais en plus, nutritionnellement parlant, il va apporter moins à vos enfants. Et après, il y a aussi le rapport sain à l'alimentation, c'est-à-dire, en effet, éduquer notre enfant pour lui permettre de développer une relation sereine, normale, ce que vous disiez, Fanny, tout à l'heure, le terme normal, l'aliment, à la nourriture.
Mais c'est quoi, justement, une relation normale ?
Alors, une relation, ce que moi, j'appelle... Alors, moi, j'ai développé dans ma pratique une approche qui s'appelle l'alimentation attentive. Donc, en fait, moi, avec l'alimentation attentive, j'utilise la nutrition, la naturopathie qui permet une approche globale de l'individu, et la nutrition, la pleine conscience et la naturopathie. Voilà, c'est trois volets. Un enfant qui a une alimentation saine, déjà, il mange, il a plaisir à manger, il mange par faim, il mange par plaisir, c'est un moment agréable pour lui. C'est quelque chose qui est plutôt positif que négatif. Ça ne veut pas dire que seuls les enfants qui ont un gros appétit ou qui adorent manger ont une alimentation saine ou une relation saine à leur aliment. Il y a des enfants que ça intéresse plus ou moins. Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est que ça reste un plaisir. Ensuite, l'enfant mange pour lui-même et pas pour faire plaisir à ses parents. Manger pour faire plaisir à d'autres, ça peut amener sur le plus moyen et long terme à se couper de sa sensation de satiété personnelle. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, quand on se coupe de cette sensation de savoir à quel moment on n'a plus faim, ben en fait, on ne sait plus vraiment quelles sont les quantités qui sont bonnes pour nous. Donc, c'est vraiment mettre l'enfant aussi dans un rapport de confiance en soi, en sa capacité à savoir jusqu'où manger, quand s'arrêter, et à se dire, en fait, je mange pour moi, je ne mange pas pour mes parents. Je ne mange pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'aime pas forcément recommander aux gens de dire une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Non, en fait, c'est une cuillère pour toi. Même si, en effet, les enfants ont parfois et même souvent besoin d'être encouragés à manger et qu'il faut souvent trouver des moyens de les encourager à manger peut-être un peu plus parce qu'ils n'ont pas forcément, on estime qu'ils n'ont pas forcément eu assez. Donc il y a vraiment tout un travail aussi de lâcher prise de la part du parent pour mettre l'enfant dans sa responsabilité de mangeur.
Oui, puisque nous disiez par rapport à ce que vous nous disiez, Fanny, le fait de faire confiance à l'enfant aussi.
Exactement.
Finalement, quand votre fille refusait l'assiette, au moment donné, vous avez lâché et vous lui avez fait confiance. Et que vraisemblablement, si elle ne mangeait pas, c'est peut-être parce qu'elle n'avait pas faim aussi et que ce n'était pas grave et qu'elle allait compenser sur un autre repas.
Ou qu'elle ferait l'expérience d'avoir faim en se disant « je ne vais peut-être pas le refaire deux fois de suite ».
Voilà, exactement. Ça nous montre qu'en fait, ce qui est intéressant et ce qui est important en tant que parents, c'est d'abord de laisser être capable nous-mêmes de suffisamment lâcher prise et faire confiance pour les laisser expérimenter et comprendre et vivre par eux-mêmes les expériences de ce que c'est que de ressentir la faim, la satiété. Alors, il y a aussi beaucoup de parents, évidemment, une des préoccupations principales des parents, c'est est-ce que mon enfant mange assez ? Est-ce que mon enfant ne risque pas d'avoir des carences ? Est-ce que mon enfant mange équilibré ? Est-ce qu'il a ce qu'il lui faut ?
Comment le parent peut savoir ça ? Si son enfant mange assez ? Quels peuvent être les indicateurs qui peuvent l'aider à évaluer ça ?
Alors, il y a plusieurs indicateurs. Il y a d'abord la courbe de croissance et la manière dont on voit notre enfant grandir. En tant que parent, on n'est pas non plus complètement livré à nous-mêmes. On a quand même un pédiatre chez qui on emmène notre enfant et qui va vérifier que notre enfant est bien dans la courbe de croissance et qu'il n'y a pas de problème de croissance. Et donc parfois, on peut se dire aussi, bon, mon enfant a un petit appétit ou mon enfant a un gros appétit, mais il n'y a pas de préoccupation particulière à avoir. Donc je dois aussi, encore une fois, moi, parent, accepter de faire confiance à l'enfant et que c'est comme ça. Écouter, être attentif à l'enfant. Et voilà, le deuxième aspect, c'est ça aussi, c'est être attentif. Et c'est aussi se renseigner dans le temps aussi, de savoir quelles sont les doses qui sont recommandées. Même si chaque enfant est unique et qu'en effet, chaque dose est unique et que les quantités qu'il mange dépendent de plein de choses, Il y a quand même des... On a la chance aussi d'avoir des années d'études sérieuses et scientifiques sur le sujet qui nous permettent d'avoir un cadre et une grille sur quelles sont les quantités nécessaires ou en tout cas recommandées pour chaque âge, quelles sont les proportions de protéines, de graisses, de sucre, de légumes et tout ça qu'ils ont recommandé. Donc, on peut aussi se fier à ça et après être capable soit de se faire confiance et de s'écouter. Il y a vraiment la question d'écouter notre petite voix. Moi, les gens que je vois en consultation, les parents que j'accompagne, souvent, je les amène vraiment à se faire confiance, à écouter leur intuition. Parce qu'en fait, souvent, quand on écoute son intuition, on est capable de savoir quand c'est pas exactement comme dit la pédiatre ou quand c'est pas exactement comme dans les livres, mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Et en fait, à l'inverse, souvent, quand on arrive à écouter son intuition, le parent perçoit que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faut faire appel à quelqu'un. À la fois lâcher prise, savoir bien s'entourer et faire confiance et bien s'informer. Le troisième aspect de ce que c'est qu'une alimentation saine pour moi, donc il y a manger par plaisir, manger pour soi et être capable d'identifier la nature de sa faim. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, et ça c'est vraiment un travail que le parent doit faire aussi beaucoup, être capable d'identifier quand on a envie de manger, en fait, si on a vraiment faim physiologiquement ou si ce n'est pas une autre partie de nous qui a besoin d'être nourrie. On a tendance à un peu confondre et à pas forcément nous apprendre. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'apprendre, nous, en tant qu'adultes, et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprendre à nos enfants. Parfois, en fait, quand on demande un enfant, alors eux, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils l'ont de manière beaucoup plus naturelle. C'est qu'en fait, parfois, un enfant dit « j'ai envie de manger, je veux un gâteau », et on peut lui demander « est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie d'un bisou ou d'un câlin ?» Mais ils auront beaucoup plus facilement tendance qu'un adulte de dire « ah mais oui, en fait, j'ai envie d'un câlin ». J'ai envie d'un bisou. En fait, j'ai faim, une faim affective. Oui. Ou alors, parfois, ils s'ennuient. Oui. Comme nous, hein, qui nous ennuyons et qui allons ouvrir le frigo. Hein. Pour les enfants, c'est pareil. Donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, une relation. Et aider nos enfants à développer une relation saine à l'aliment, c'est vraiment les aider à savoir se nourrir de la bonne nourriture. C'est-à-dire la nourriture physique, affective, alimentaire, ou alors émotionnel, intellectuel, spirituel.
Là, ce que vous dites, Sophie, ça m'évoque justement autour de la question de l'allaitement. Voilà, on sait que de l'allaitement ou du biberon, en tout cas, ce moment où le parent, dans les tout premiers mois de la vie de l'enfant, donne à manger à son enfant, c'est, j'ai envie de dire, à 90% de la nourriture affective. Oui. Et que c'est d'ailleurs principalement de ça dont l'enfant a besoin. Évidemment qu'il a besoin aussi de l'alimentation voilà, physiologique pour son développement, évidemment. Mais voilà, en tout cas, cette alimentation affective-là, elle est très, extrêmement importante. Fanny, c'est quelque chose que vous avez pu observer avec vos filles?
Complètement, avec l'aîné. En fait, ça vient de, en vous écoutant, ça vient de percuter. En fait, ma grande, elle mangeait, c'était un petit glouton pour l'allaitement, puis je l'ai sevrée à 2 mois et demi pour retourner au travail, donc elle est passée au biberon. Au moment où j'ai commencé à la sevrer, elle a commencé à avoir des reflux. Donc on nous a expliqué que c'est le petit clapet, tatala, donc il fallait donner tout ce qui va bien. Donc elle est allée chez la nourrice et puis elle s'est mise à avoir des reflux vraiment acides à tel point que je n'ai pas pu garder certains de ses vêtements. Ils étaient brûlés, donc pour la petite louloute, c'était difficile. C'est avec le recul qu'on s'en rend compte, mais elle est restée quelques mois chez cette nounou qui était hyper stressée et je pense qu'il était un mauvais moment de sa vie. En fait, elle a eu plein de galères. Donc je pense que ma fille, et d'ailleurs elle a gardé cette capacité à sentir tout ce qui se passe autour d'elle. C'était de pire en pire et puis on a dû arrêter parce que la nounou avait un souci. Les mamies sont venues et les reflux existaient toujours, mais se sont calmés. On est allé voir une pédiatre, on a changé de pédiatre et elle me dit « mais elle est encore à 5 biberons de 200 et quelques enfin, ». C'est énorme en fait, elle mange trop. Et je pense qu'en fait, je viens de percuter, mais je pense qu'on lui a donné beaucoup à manger. Et en réalité, ce n'était pas forcément de ça dont elle avait besoin. Parce que c'est vrai qu'après, donc les mamies étaient là. Je pense qu'elles ont câliné tout ce qu'elles voulaient. Voilà. Et elles ont moins, on a réduit et ça s'est calmé. Bien sûr, le petit défaut était là quand même, mais ça a été beaucoup moins acide. Enfin, ça s'est mieux passé. Et en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé. Merci. Je viens de le comprendre là, en fait.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Fanny, c'est vraiment une notion aussi qui est très... forte en tant que parents qui avons la lourde tâche de nourrir nos enfants, c'est quand même pas une mince affaire. Hein. C'est vraiment aussi les capacités que ça nous demande. Une patience, et aussi une capacité d'adaptation et d'adaptabilité permanente pendant des années. Et ça ne s'arrête pas quand ils ont 3 ans et qu'ils sont à table avec nous. C'est vraiment... on a besoin de s'adapter en permanence, donc d'être attentif en permanence à nos enfants, à leurs besoins, et encore une fois, à la fois à ce qui se passe dans l'assiette, mais aussi à ce qui se passe autour de l'assiette. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont la place de faire quand ils sont en collectivité. La plupart des enfants ne sont pas forcément avec leurs parents la journée pour au moins le déjeuner et le goûter. Et à la cantine, la nourriture affective, voilà, on n'en parle pas. Enfin, ils ont un repas, un plateau, et voilà, ils le mangent ou ils ne le mangent pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont assez stressés aussi parce que leurs enfants ne mangent rien à la cantine, notamment en maternelle, beaucoup. Après, ça se régule un peu plus en général, mais il y a beaucoup de parents d'enfants en petite section de maternelle, par exemple, où en fait, ils sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes que quand ils étaient à la crèche avant, où il y avait vraiment plus de personnel qui s'occupait d'eux, etc. Là, souvent, dans les écoles maternelles, un enfant, il veut manger que du pain, bon, bah, voilà, ils vont un peu essayer de lui donner autre chose. Mais voilà, il y a des enfants qui peuvent ne manger que du pain et du guéri, quoi, à la cantine, hein.
Vous disiez tout à l'heure, Sophie, les gros et les petits mangeurs, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Dans ce que vous disiez, j'entends voilà, que chaque enfant est singulier, différent. Est-ce que c'est quand même une réalité qu'il y a des gros et des petits mangeurs?
Oui, c'est une réalité. Il y a à la fois une question de métabolisme. Il y a des gens qui métabolisent vite, qui assimilent vite les nutriments et qui métabolisent vite et qui donc parfois peuvent avoir besoin de manger de manière plus rapprochée, des plus petites quantités, qui sont plus vite rassasiées, mais qui ont plus vite faim, qui peuvent être assez minces. Il y en a qui, en effet, s'arrêtent de manger, pas parce qu'ils ont plus faim, mais parce qu'en fait, ils sont intéressés par autre chose. Donc, ils n'ont plus envie de manger parce que ça les ennuie d'être à table, parce que, voilà, ils ont envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, on a souvent la question des grignotages qui suivent derrière ces situations-là. Il y a les gros mangeurs qui, en effet, pourraient ne jamais s'arrêter. Il y a vraiment plusieurs... Il y a le métabolisme, il y a aussi l'activité physique de l'enfant, il y a son âge, il y a le moment de sa vie où il est, parce qu'il y a des pics de croissance pendant lesquels un enfant peut avoir tout d'un coup plus d'appétit et puis tout d'un coup le perdre. Il y a la question de la néophobie alimentaire, la fameuse néophobie alimentaire dont on peut parler, qui arrive autour de 2 ans. En fait, l'enfant qui pouvait être un gros mangeur ou en tout cas manger plein de choses se met tout d'un coup à rejeter les aliments qu'il aimait avant ou à voilà, faire une fixation sur des aliments, se mettre à, comme beaucoup, ne pas vouloir que les aliments se touchent. Ne pas mélanger les aliments, avoir du mal quand il y a un aliment nouveau, etc. En effet, il y a plein de formes d'appétit différentes.
En tout cas, pour revenir sur cette étape-là du 2 ans, voilà, c'est quand même une étape, en effet, importante dans le développement de l'enfant. On en a parlé dans un épisode de parentalité sur le Terrible 2, qui est vraiment une première phase majeure, il y en a avant, mais importante, d'individuation et d'autonomisation de l'enfant. Et que ça passe aussi par l'alimentation. Ça passe aussi par bah, « tu ne décides plus de ce que je mets en moi ». L'enfant commence à avoir besoin d'avoir un contrôle aussi sur ce qu'il va mettre en lui. Et que c'est important voilà, de respecter ça.
Ouais, absolument. C'est vraiment une phase de développement de sa personnalité, son identité propre. Et évidemment, comme vous le disiez, Fanny, en fait, les enfants, ils comprennent très vite. À 2 ans, ils voient absolument comment le temps du repas peut être un espace où ils peuvent obtenir toute notre attention de manière assez facile, en fait, quand même. Donc, ils voient absolument très bien les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc, c'est aussi pour ça que ça peut cristalliser beaucoup de choses. Ça peut être souvent aussi une porte d'entrée vers des sujets plus profonds ou différents dans les familles. Où souvent, ça passe par « il y a un problème à table, mon enfant mange mal. » Bon, bah, il faut aller voir quelqu'un. Et en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres choses derrière et qu'en fait le moment du repas cristallise un peu ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ces moments-là comme un signal de ce qui peut nous...
C'est un langage, oui, qu'est-ce que vient dire l'enfant à travers ces manifestations-là. Du coup, dans les refus, ou voilà, quand l'enfant ne veut pas mélanger des aliments, comment le parent peut-il se positionner par rapport à toutes ces manifestations que l'enfant peut avoir ?
Alors moi, ce que je recommande, c'est de rester toujours dans la bienveillance, d'essayer évidemment de ne pas transformer ça en un rapport de force et de voir ça comme un terrain d'expérimentation pour lui. Parfois, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu de se fâcher ou de gronder son enfant pour quelque chose qui, pour lui, n'est pas du tout une bêtise. Il est simplement en train d'expérimenter des textures, de vouloir manger avec les doigts ou ne pas manger ou pas que ça se touche, etc. Il faut vraiment essayer de respecter l'enfant et toujours de faire preuve de patience et d'adaptabilité, tout en mettant un cadre quand même assez clair pour l'enfant. Établir les règles qu'on définit nous, tout seul, avec l'enfant, avec des professionnels de santé, voilà, mais qui sont les règles du déroulement du repas, parce qu'on sait que les enfants aiment le cadre, et qu'en fait c'est plus simple pour eux d'avoir un cadre. Alors ils vont jouer avec le cadre, mais tant mieux. Et ce qu'il faut pour nous, c'est toujours rester bienveillant et rappeler les règles et continuer de proposer. Quand un enfant se met à refuser un aliment ou refuse un légume, même si c'est un légume qu'il aimait avant, c'est pas grave. On n'en fait pas toute une histoire. On ne le force pas. Il ne faut pas forcer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus compris, intégré, même dans chez les diététiciens, les nutritionnistes, etc. Ça ne sert à rien de forcer.
Oui, parce qu'il y a quelques années, en tout cas, notre génération, oui. Voilà, on nous forçait, on restait devant notre assiette pendant des heures pour finir les épinards.
Oui, nous, on a ça. Ou alors, on avait les carottes râpées, goûtées, parce qu'on ne les avait pas mangées au déjeuner. Donc, en effet, il y a aussi toute cette déconstruction que nous, on doit faire en tant que parents qui avons eu cette éducation-là et qu'on n'a pas forcément envie de reproduire pour nos enfants, de ne pas forcer, c'est-à-dire respecter la faim. Donc, en fait, une des solutions pour ça, moi, que je propose, c'est de faire une assiette où il y a plusieurs choses. Plusieurs légumes, des céréales, des protéines, sources de protéines, etc. Et il y a une chose que l'enfant ne mange pas, c'est pas grave. On lui dit, c'est pas grave, tu regoûteras après. Par contre, il faut continuer à proposer. Un enfant, il faut le savoir, il lui faut parfois jusqu'à 15, voire 20 fois pour apprécier un aliment et même parfois le goûter. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut comprendre que c'est normal, que c'est une phase normale, ne pas en faire tout un... Parce qu'en fait, plus nous, on se crispe là-dessus, plus l'enfant voit que c'est un sujet, donc plus il va en jouer.
Oui. Du coup, justement, Sophie, dans l'assiette, alors là, vous nous dites, voilà, il faut mettre différentes choses, que l'enfant va choisir, voilà, ce qu'il prend, peut-être ce qu'il ne prendra pas. Quand vous parliez des règles et du cadre, peut-être on propose une assiette, mais si l'enfant ne mange pas, on ne proposera pas une autre assiette, ce que vous disiez, Fanny. Et puis, voilà, d'accepter que l'enfant refuse de manger, ce qui demande du lâcher-prise chez le parent, et ce qui n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il doit y avoir d'autre dans cette assiette? Là, je pense notamment aussi à la question de Fanny protéines. Sur les protéines et sur la viande qui est compliquée pour sa fille.
On se rend compte de plus en plus au niveau clinique. Moi, j'ai suivi une formation en nutrition à Harvard dans laquelle ils ont fait plein d'essais et de tests et de plein de différents types de régimes dans le monde sur plein de catégories de populations différentes. Et en fait, ça nous a permis vraiment de se rendre compte de quels étaient les régimes, en tout cas les manières de manger qui sont les meilleures pour l'individu, qu'il soit un enfant ou un adulte. On s'est rendu compte qu'en fait, la meilleure alimentation, celle qui en tout cas présentait les risques et la population qui avait le moins de maladies cardiovasculaires, le moins de diabète de type 2, le moins de cancers, certains types de cancers, c'est le régime méditerranéen. Et donc, c'est une alimentation très riche en légumes, variés, en fruits. Il y a de la viande, mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y a aussi du poisson. La viande, c'est surtout de la volaille, du poulet, donc peu de viande rouge. Et moi, ça, c'est ce que je recommande aussi. Du poisson, alors surtout plutôt les poissons, des petits poissons gras ou alors des poissons maigres, en fait, variés. Des céréales, en variant les sources de céréales. Des produits laitiers de manière limitée dans le régime crétois. Il y a surtout du fromage de chèvre et de brebis deux ou trois fois par semaine, pas tant que ça.
Pour répondre à la question de Fanny sur les protéines, voilà, sa fille qui refuse de manger, en tout cas qui refuse pas, qui n'aime pas la viande, qui souhaite pas particulièrement en manger. Ouais. Par quoi on peut remplacer du coup
Alors les déjà, protéines animales? C'est de plus en plus courant. Des enfants, même dès le CP, ou en tout cas dès, parfois l'âge de raison, en fait, ce qu'on dit l'âge de raison, ont moins envie de manger de viande. En tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, notamment chez les adolescents, pour les questions de souffrance animale. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas de votre fille. Il y a des alternatives. Déjà, si elle aime le poisson, privilégiez plutôt les poissons gras, les sardines, les anchois, les maquereaux, les petits poissons, parce que qu'en fait, Par exemple, le saumon, alors les truites aussi, si possible, sauvages. Mmh. Bon, les grands poissons gras, comme le thon et le saumon, peuvent être un peu chargés en métaux lourds. Donc, bon, on essaie de imiter. Mais si elle aime le poisson, ça peut faire une source de protéines animales qui est bonne. Si elle aime les œufs aussi. Et après, il y a aussi des protéines végétales dans le quinoa, les haricots, les fèves, les pois chiches, les lentilles, la spiruline, les algues. Alors, en effet, les quantités par rapport à ce qu'on aurait dans un steak haché, les quantités de protéines végétales qu'il faut prendre ne sont pas les mêmes. Mais il faut quand même savoir que la protéine chez les enfants, on est souvent en excédent de protéines pour les enfants. La plupart des petits Français mangent trop de protéines par rapport à ce dont ils ont vraiment besoin. Et il y a très très peu d'enfants français qui sont en carence, qui n'ont pas assez de protéines. C'est extrêmement rare. Il y en a aussi quand même dans les produits laitiers, hein. Dans les fromages, il y a des protéines. Le mieux, si vous voulez lui donner des protéines végétales, donc du quinoa, des lentilles, des pois chiches, etc., c'est de l'associer à des céréales. Il y a des milliards d'individus sur Terre qui sont végétariens et qui n'ont pas de carence. Donc, c'est possible. Sans forcément se gaver de soja, ce que je ne recommande pas particulièrement. Parce que, en fait, on ne sait pas forcément toujours comment il est cultivé. Et aussi parce qu'il contient des substances qui peuvent être un peu perturber les hormones féminines, notamment au niveau au moment de l'adolescence. Ce n'est pas génial. Donc, bon, moi, je recommande, si on prend du soja, plutôt de prendre des choses de soja fermenté, du miso. Du natto, en les choisissant bien. Voilà, mais on n'est pas du tout obligé d'avoir recours au steak de soja quand on ne veut pas donner protéines animales à nos enfants.
L'autre question importante, voilà, que j'entends beaucoup chez les parents, c'est la question du sucre, notamment dans les goûters. Alors vous, Fanny, vous faites les goûters à la maison, donc j'imagine que ça vous permet de réguler le dosage de sucre. Ouais. Il a été beaucoup dit que dans les goûters industriels, il y a trop de sucre.
Oui. Alors oui, la question du sucre, en fait, elle amène plusieurs questions. En effet, l'impact métabolique et même émotionnel et psychologique du sucre sur l'enfant, l'anxiété des parents autour de l'alimentation des enfants, dans un climat où on est une sorte de saturation d'informations et où, en réponse à cette saturation d'informations, il y a une augmentation de l'anxiété des parents qui amène à beaucoup serrer la vis et à augmenter les interdits. Et plus il y a d'interdits, plus il peut y avoir des enfants qui mangent en cachette et qui peuvent manger des quantités que nous, on ne contrôle pas et qui ne sont pas forcément liées à leur faim et à leurs besoins. Donc, en effet, la question du sucre, elle est vraiment importante en ce moment. En effet, alors, il y a plusieurs types de sucre. En fait, le sucre appartient à la catégorie... Enfin, il y a les sucres, il y a les glucides, qui est une catégorie dont on a besoin, qui nous apporte de l'énergie, qui est très importante pour le corps, pour les cellules et tout ça. Il y en a dans les pâtes, dans le riz, dans le pain, dans les céréales, etc. Et après, il y a les sucres qui sont les sucres raffinés. Donc, c'est ceux-là qui sont diabolisés et qui, en effet, ne sont pas nécessaires physiologiquement pour l'individu. C'est la seule chose, en fait, dont on n'a pas besoin, si vous voulez. Le sucre blanc ou le sucre de canne, on n'en a pas besoin. Les gâteaux industriels sont, en effet, souvent trop riches en sucre. Donc c'est super de faire les goûters soi-même et dans ces goûters, on peut très bien remplacer le sucre par déjà rien. Non mais en fait, on peut mettre par exemple un peu de vanille à la place du sucre si on veut donner du goût. On peut mettre plein d'autres choses qui fait que voilà. Mais après, c'est une question d'habitude aussi. Les enfants ont besoin de s'habituer à des produits, de désucrer au fur et à mesure. Donc faut y aller, si on veut limiter les sucres, il faut y aller progressivement. Sinon, ils risquent de faire un blocage. Mais quand on essaie de diminuer les quantités de sucre et de sucre ajouté, si on y va progressivement, ça marche bien. Les enfants, ils y sont totalement habitués. Des enfants qui mangent que du chocolat noir depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas particulièrement, ils n'aiment pas forcément plus le chocolat au lait, en fait.
Oui, c'est vraiment une éducation au goût. Voilà, ce que vous disiez, Fanny, aussi, dans le choix des aliments, de faire goûter le vrai goût de la carotte. Oui. Voilà, c'est pareil aussi avec tous les aliments.
Voilà, ça, c'est formidable. Mmh. Donc, impliquer les enfants dans la préparation de la cuisine, ça, c'est vraiment... C'est super et c'est très important. Et on peut le faire beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. À 18 mois, un bébé, il peut patouiller dans un bac pour nettoyer les haricots verts ou nettoyer la salade. Voilà, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qui les impliquent dans la préparation du repas.
Qui leur permettent... ils adorent ça.
Ils adorent ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'amener les parents à faire en alimentation attentive. C'est de considérer l'avant pendant et après repas comme une activité à part entière qu'on fait avec nos enfants. De toute façon, il faut qu'ils mangent. Donc en fait, essayons de sortir du fait que c'est une corvée, parce que ça peut être un moment très enrichissant pour tout le monde et une vraie activité qu'on partage. On passe du temps à faire de la pâte à modeler, on leur achète des objets, des jeux, des jouets et tout ça, alors qu'en fait, on a souvent dans la cuisine de quoi les occuper, parfois pendant longtemps. Et ça leur permet, eux, en effet, d'identifier les aliments, beaucoup plus facilement avoir envie de les manger, parce qu'ils en sont familiers. Ça, c'est vraiment important de le faire, hein. Et après, à table, on peut très vite les amener à mettre la table, participer à mettre la table, et aussi à se servir eux-mêmes. Ça, c'est un autre sujet intéressant, et ça, en alimentation en pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. C'est qu'en fait, au lieu de servir les assiettes aux enfants, 2 ans, ils peuvent commencer à le faire, et même avant. Moi, mon fils, il n'a même pas 2 ans, il le fait. On met des plats sur la table, et chacun se sert avec une cuillère de la quantité qui correspond à la hauteur de sa faim. Donc, en fait, il y a tout un travail aussi à faire qu'on peut faire avec les enfants sur quelle est la taille de ta faim. C'est vraiment tout un jeu aussi qui amène à être attentif à son corps, à ce qu'on ressent. Ça, c'est vraiment de la pleine conscience. Est-ce que ma faim, elle est toute petite comme un petit pois ou est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est énorme? Comment elle est? Combien tu as envie de mettre de grains de maïs ou de petits pois ou de cuillères de riz dans ton assiette? Et en fait, ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si chacun se sert de la quantité qui lui correspond, on n'a plus besoin de les forcer à terminer leur assiette parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes mis les quantités dont ils ont besoin. Mais dans l'absolu, si nous, on met une assiette à notre enfant qui est trop grosse pour sa faim, c'est pas juste non plus de le forcer à la terminer. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui a choisi la quantité.
Oui, et puis d'accepter que, comme nous, les enfants ont des moments où ils ont faim, des moments où ils ont moins faim, et qu'ils vont pas manger de manière équivalente tout le temps.
Absolument. Voilà. Ça dépend de ce qu'ils ont mangé au repas d'avant, ça dépend de comment ils se sont dépensés physiquement dans la journée, ça dépend s'ils sont en phase d'un pic de croissance, ça dépend quand ils font des dents parfois, ils mangent moins bien. Donc en fait, en effet, il faut souvent dédramatiser une situation où un enfant ne veut pas manger, même quand ça dure une semaine, même quand ça dure un petit moment. Il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter, il faut accepter. Voilà, et même quand les enfants ne mangent pas de légumes, alors on dit évidemment que les légumes sont très bons pour la santé, parce qu'ils contiennent des fibres qui sont très bonnes pour la digestion, qui permettent de ressentir mieux la satiété, ils contiennent énormément de nutriments et de vitamines dont on a besoin. On se rend compte que la consommation de légumes, c'est pour ça qu'en fait c'est très important d'en mettre beaucoup dans l'assiette et d'en mettre plusieurs variétés dans l'assiette, préparées si possible de différentes manières, de manière crue, de manière cuite, cuite à la vapeur, ça peut être grillé, ça peut être en purée, ça peut être rôti, etc. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça limitait les risques cardiovasculaires, les risques de diabète de type 2, les risques de certains cancers. Donc, c'est vraiment important. Mais ça, c'est dans les livres. Et les enfants qui ne mangent pas les légumes, il y en a plein. Ça arrive et la réalité, c'est plutôt ça. Et en fait, il vaut mieux pas culpabiliser les parents en leur disant « Ton enfant ne mange pas de légumes, force-le à manger des légumes ».
Comment justement on peut encourager, alors on parlait tout à l'heure des jeux, vous disiez voilà, d'apprendre à manger pour soi, donc pas une cuillère pour papa, pour maman, mais voilà, est-ce qu'il peut y avoir des jeux pour encourager, aider, voilà, soutenir les enfants?
Oui, il peut y avoir des jeux. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est que jouer à table, c'est pas interdit. Ça peut même aider tant que ça n'empêche pas de manger, tant que c'est au service de faire manger les enfants et au service du moment partagé du repas. Alors en fait, quand ils sont petits déjà, le jeu ça peut être un support aussi pour découvrir les couleurs. Chacun dit combien de couleurs il voit dans son assiette, leur apprendre à jouer avec les textures. Faites manger vos enfants avec les doigts. C'est bien qu'ils commencent par ça, ça leur permet d'expérimenter. Et en fait, petit à petit, ils vont de toute façon apprendre à manger en collectivité avec des cuillères. Donc mettez quand même une cuillère, une fourchette, montrez-leur que c'est comme ça qu'on mange. Mais en fait, laissez-les expérimenter. Moi, je préfère un enfant qui mange avec ses doigts plutôt qu'un enfant qui ne mange pas parce qu'il y a une fourchette et qu'il ne veut pas s'en servir. Ça, c'est aussi vraiment une éducation que nous, on a eue, qu'il faut qu'on désapprenne. Et c'est une manière aussi de ne pas avoir honte que son enfant ne se conforme pas à un enfant bien élevé qui mange bien, il mange avec les doigts, c'est un mal élevé, tout ça. Donc, il faut vraiment les amener petit à petit à ça, mais moi, je préfère quand ils sont tout petits, les laisser expérimenter les choses. C'est pas grave s'il y en a partout. pour les jeux, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi faire des figures dans les assiettes. Faire construire un bonhomme, par exemple, on met deux petites olives, des noyautés pour faire les yeux, des petits morceaux de chou-fleur pour faire les oreilles. On fabrique un bonhomme avec eux, en les impliquant le plus possible aussi. Moi, il y a un jeu que je recommande et que je fais dans des ateliers, c'est un jeu de Jenga. Alors, je coupe des bâtonnets de concombres, de carottes, cuites et crues. Ça dépend de l'âge des enfants, mais voilà. Des graissins, des dés de comté, des doigts de comté. Donc, différents types de choses, du concombre, etc. Et après, les enfants construisent une sorte de tour, vous voyez, un peu comme quand on fait des caps plats. Mmh. On en met deux dans l'autre sens, etc. Et après, chacun doit soit dire à l'autre quelle couleur il doit manger, ou soit en enlever un sans faire tomber le reste. Il y a plein de choses qu'on peut inventer. En fait, c'est aussi là que pour les parents, ça peut être un moment où on s'amuse. Mmh. Ce qui est important en tant que parent, c'est d'être là pendant le moment du repas. Mmh. Sans écran, sans téléphone, voilà.
Vous parliez de la question du grignotage, Sophie. Oui. Voilà, comment le parent peut accompagner cette question-là?
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des enfants qui ont besoin de grignoter parce qu'en effet, ils ne mangent pas assez lors des repas, parce qu'en fait, ils ne tiennent pas en place. Et donc, ils sortent de table avant d'avoir vraiment atteint leur satiété. Dans ce cas-là, ils auront faim une heure plus tard. Alors, quand ça répond à une faim physiologique de l'enfant, moi, je recommande quand même de leur donner à manger, tout en les accompagnant de plus en plus à rester à table pendant l'heure du repas. Donc vraiment, amener les enfants à rester à table, à leur dire « tu restes à table ». Ou alors, leur autoriser à se lever et à revenir. On peut dire « définir ensemble, tu as le droit de te lever deux fois ». Ou alors, quand ils sont très petits, c'est compliqué parce qu'ils ne comprennent pas ce nombre de fois. Mais en fait, il faut les remettre à table. Tant que nous, on sent qu'ils n'ont pas atteint la satiété, qu'ils n'ont pas suffisamment mangé. Quand ils ont suffisamment mangé à table, mais qu'ils veulent manger, qu'ils réclament quelque chose une heure ou deux heures plus tard, il y a plusieurs astuces. Souvent, quand ils réclament un gâteau, un cookie, un muffin, et qu'ils vous leur demandez s'ils ont vraiment faim, s'ils ont faim, vous leur dites « dans ce cas-là, je te donne une pomme » ou « je te donne un doigt de comté, par exemple, alors un bon comté 18 mois ou des fromages voilà, de bonne qualité ». S'ils le refusent, c'est qu'en général, c'est plutôt une faim affective. Ils n'ont pas vraiment faim physiologiquement. Et dans ce cas-là, c'est une manière aussi de voir, quand ils réclament à manger, quel est leur vrai besoin. C'est une manière aussi d'identifier la nature de leur faim. Voilà, le grignotage, d'accord, c'est souvent un signal de ça.
Et par rapport aux questions que Fanny amenait sur voilà, l'entrée dans l'adolescence, oui, le changement du corps en lien avec l'alimentation, oui, voilà, comment Fanny pourrait accompagner ces filles-là?
Oui, absolument, c'est vraiment une question importante. Ce qui est intéressant dans l'alimentation des enfants, c'est vraiment qu'en fait, chaque âge a ses enjeux qui lui sont propres. Les parents, souvent, sont très attentifs dans les premières années. Il y en a beaucoup qui, comme vous, font des petits pots et tout ça. Souvent, à partir du moment où les enfants ont 3-4 ans, il peut y avoir un peu un relâchement parce qu'en fait, l'enfant se met à manger à table comme tout le monde. Donc, on est un peu moins sur l'équilibre de l'assiette. C'est pas vraiment grave s'il mange des chips, s'il boit du coca, etc. Alors qu'en fait, on pourrait être beaucoup plus ferme avant. Et il y a la question, en effet, de l'entrée dans l'adolescence qui est un nouvel enjeu où il va y avoir, en effet, des nouveaux besoins nutritionnels parce que le corps change, qu'il y a des besoins en protéines, en énergie qui vont être plus importantes pendant la phase de 4 ans à 10 ans. Et il y a vraiment la question d'accompagner l'enfant avant, à partir de petit, donc avant l'entrée à l'adolescence, dans un rapport bienveillant à son propre corps, la confiance en soi, qui va permettre d'encaisser la violence des enfants préadolescents et adolescents. Parce que c'est une période violente pour tout le monde. Les enfants sont aussi durs envers eux-mêmes à cet âge-là, mais en effet, ils se prennent quand même dans la figure des réflexions qui peuvent être difficiles à encaisser. Donc en tant que parent, c'est important, c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'instaurer une relation saine à l'alimentation dès petit et dès avant, pour que quand cette phase-là arrive, ils puissent être capables de faire la part des choses et que quand un enfant ou un ami leur dit quelque chose qui peut les blesser, ça arrive à leur glisser dessus, est-ce que ça les affecte moins? Mais en fait, de toute façon, c'est une période de la vie où on est plus attentif à son corps, où son corps change, où il y a une attention au poids qui est là. Je recommande de ne pas nier ça, mais plutôt d'apprendre à ce que ça ne prenne pas des proportions qui deviennent gênantes, à transformer, à ce que ça puisse glisser, à garder une confiance dans le fait que, voilà, on est bien comme on est.
Quand les parents, voilà, sont en difficulté, voilà, que ça devient trop compliqué autour de cette question de l'alimentation, ou qu'ils voient des choses sur leur enfant, voilà, une perte de poids ou une prise de poids, comment les parents peuvent se faire accompagner ?
Oui. Alors déjà, on a un pédiatre. On emmène notre enfant voir le pédiatre. Le pédiatre, c'est souvent le premier qui donne des conseils sur la diversification alimentaire, l'alimentation des enfants et tout ça. Normalement, ça reste la première personne avec qui vous devez parler de l'alimentation des enfants. Et ça doit rester votre référent. S'il y a un problème, c'est au pédiatre qu'il faut en parler d'abord. Ce qu'il faut, c'est trouver un pédiatre avec qui vous pouvez échanger sur ce sujet-là. En effet, souvent, ils n'ont pas forcément le temps, il n'y a pas forcément la place lors des consultations de passer beaucoup de temps là-dessus. Déjà parce que ça ne les intéresse pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément ni le temps, qu'il y a d'autres choses à faire et tout ça. S'il y a un sujet, un souci, une inquiétude, il ne faut pas rester seul avec son inquiétude. On commence à en parler au pédiatre. Et le pédiatre peut nous orienter si on estime qu'il n'a pas répondu à nos questions. On lui demande des contacts d'un nutritionniste ou d'une diététicienne ou d'un naturopathe qui va avoir une approche plus générale, qui va prendre l'enfant aussi avec l'aspect émotionnel et affectif qui va avec, et que les diététiciens et les diététiciennes ne prennent pas forcément toujours en compte suffisamment à mon goût. Mais en tout cas, il ne faut pas rester seul avec ces questions, ça c'est sûr, parce qu'en fait, il ne faut pas attendre que ça empire. Et il faut un peu faire attention quand même aux réseaux sociaux, moi je trouve, parce qu'on disait tout à l'heure que les parents sont quand même beaucoup perdus aujourd'hui parce qu'il y a une saturation d'informations. On entend parler de nutrition partout, tout le monde parle d'alimentation. Ça part dans tous les sens, donc beaucoup de gens sont perdus parce qu'en fait, on ne sait plus. Quels aliments il faut privilégier, arrêter surtout pas, diaboliser, etc. Donc beaucoup de parents sont complètement perdus. Et en plus, le danger, entre guillemets, je trouve qu'il est un peu compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que c'est difficile de faire le tri. Parce qu'en fait, on reçoit l'information et on l'intègre en tant que parent. Une information qu'on va lire sur un post des réseaux sociaux, on peut l'intégrer de la même manière qu'elle émane d'une maman blogueuse qui n'a pas du tout de formation professionnelle en nutrition, ou d'une pédiatre qui a un compte et qui est actif sur les réseaux sociaux, qui va parler en tant que professionnelle de santé. En fait, c'est parfois difficile. Si vous voulez, les informations sont mises un peu au même plan. Et donc, c'est parfois difficile de faire la part des choses, de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'écouter soi, trouver des bons professionnels en qui on a confiance et avec lesquels on se sent en phase.
Oui, en tout cas, là, tout ce que vous nous avez dit, Sophie et Fanny, beaucoup de choses se jouent autour, dans l'assiette et autour de l'assiette, hein, et que ça parle aussi beaucoup de la relation que le parent va avoir avec son enfant et ses enfants. Donc, il s'agit, voilà, vraiment, vous l'avez dit plusieurs fois, Sophie, de s'adapter, de trouver ce qui convient aux parents, aux enfants, que ça va évoluer, que ça va changer tout au long aussi de l'enfance et de l'adolescence, que c'est important de ne pas rester seul quand on n'en peut plus, quand on est dépassé, quand on a des questions. Et puis l'importance, vous l'avez beaucoup dit, de se faire confiance et puis de faire confiance aussi aux enfants et à ce qu'ils ressentent dans leur corps quand ils mangent ou quand ils ont faim. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Sophie, voilà, si vous deviez conseiller un livre, une vidéo, voilà, un conseil pour les parents qui nous écoutent.
Oui, il y a une de mes collègues qui s'appelle Ananda Ceballos qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « Manger mieux en pleine conscience ». Il y a le site internet et la page Instagram d'une collègue aussi diététicienne qui fait de la pleine conscience qui s'appelle Alexandra Palao, qui est formidable, que je vous recommande d'aller voir. Il y a un compte Instagram aussi qui s'appelle « La vie d'une maman ortho », qui est une professionnelle qui est spécialisée dans les troubles de l'oralité, qui parle beaucoup d'alimentation d'enfants et avec des sources vraiment de confiance. Il y a des sites internet, lanutrition.fr par exemple, ou le site de 95 degrés, le magazine de Marion Kaplan. Voilà, entre autres. Okay. Et mon site, l'atelier Cibis.
Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Fanny, voilà, d'être venue partager avec nous vos questions sur l'alimentation de vos filles. Merci beaucoup Sophie Maisonnier, je rappelle que vous êtes naturopathe spécialisée en nutrition à Paris. Merci à toutes les deux.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.